Ou que de sombre gel, ils sont fiers et contents. Ce pigeon est aimé, 3 jours par sa pigeonne. Ça lui suffit, il sait que l'amour n'a qu'un temps. Ce dindon a toujours béni sa destinée. Et quand vient le moment de mourir, il faut voir cette jeune oie en pleurs. C'est là que je suis né, je meurs près de ma mère. Et j'ai fait mon devoir, elle a fait son devoir. C'est à dire que honte, elle ne dit que souhait. Impossible, pas de nuit, aucun rêve de lune, aucun désir de jonque, l'emportant sans malheur sur un fleuve inconnu. Et tous sont excités, qu'ils de la même vie, toujours pour ces gens-là, ça n'avait point hideux. Ce canard n'a qu'un bec, et n'est jamais envie, ou que n'en plus avoir, ou bien d'en avoir deux. N'avoir aucun besoin, de baiser sur les lèvres, éloigner son chemin, voler sous les six prisons. Possédez-vous tout cœur, qu'un mystère sans pierre, un coucou régulier, et garantissant. Oh les gens bienheureux, tout à coup dans l'espace, si haut qu'il semble aller, lentement, un grand vol, en forme de triangle, arrive, plane et passe. Qui sont-ils, où vont-ils, comme ils sont loin du sol, regardez les passer. Ce sont les sauvages, ils vont leur désir, le de par-dessus mon, ses voix, ses mers, ses vents, et loin des esclavages, l'air qui voit vos pleurer, éclatez vos poumons, regardez-les avant, la terre et sa chimère, ils meurent les longues vues. Ils sont pleins les yeux pour ces pauvres gens, ont que ces femmes et mères, et savent les aimer aussi bien que vous mieux. Pour choyer cette femme et nourrir cette mère, ils pouvaient devenir volailleux comme vous. Mais ce sont avant tout des fils de la chimère, des assoiffés d'azur, des poètes et des fous. Regardez les plutôt, chez moi et des viandes, rien de vous ne croit, montez aussi en queue. Et le peu qui viendra, que ça vous fait la viande, les bourgeois sont troublés de voir passer les gueux. Regardez les corps, chez moi et des viandes, rien de vous ne croit, montez aussi en queue. Et le peu qui viendra, que ça vous fait la viande, les bourgeois sont troublés de voir passer les gueux.
Bonsoir à tous et vous êtes bien sur Radio Libertaire, Radio de la Fédération Anarchiste sans Dieu ni maître ni publicité, et c'est Jeudi Noir. Voilà pour dernière émission de l'année avec José, Michel, Jean-Mathias, moi-même. Et aujourd'hui on reçoit
Jean-Mathias toi-même.
Jean-Mathias moi-même. Mmh. Bah, des fois je parle à la troisième personne, mais là j'ai décidé de faire voilà.
Ok, l'un de long.
Bon, mais l'auditeur s'y reconnaîtra. Et on a aujourd'hui le plaisir, pour cette dernière émission de l'année, d'accueillir Chrysostome Gouriot. Alors, on a choisi un peu de l'inviter là pour cette dernière, parce qu'on a pensé que les émissions précédentes étaient un peu légères. Voilà, donc on voulait faire une émission un peu sérieuse, dans la mesure où Chrysostome est un des chefs de file, il faut le dire, hein, du polar philosophico-libertaire, hein, il faut le dire, c'est un peu ça. Donc il a déjà derrière lui une œuvre assez considérable, hein. Il est jeune pourtant, mais il est talentueux, donc il a déjà un certain nombre de livres derrière lui. Le premier s'intitulait Flicosophe, il va nous en parler un petit peu tout à l'heure. On le reçoit pour l'ensemble de son œuvre et aussi pour le dernier titre qui vient de paraître. Premier livre donc Flicosophe, ensuite un deuxième livre qui s'appelait Le Dolmen des Dieux. puis Le crépuscule des guignols, et enfin le dernier livre qui nous réunit vraiment ce soir, c'est qui s'appelle Une fellation quasi nulle, et qui est, bah, comme vous aurez compris, une espèce de variation sur une citation de Rachida Dati qui est restée célèbre, puisque c'était un des lapsus qui fait partie de son œuvre à elle. Et donc c'est une nouvelle qui vient de paraître là c'est tout chaud, hein, chez un petit éditeur de Pau, donc Une fellation quasi nulle. Alors pour présenter rapidement Chrysostome, donc c'est un auteur de polar, mais il a aussi tout un tas d'autres de qualités. Il faut quand même que l'auditeur le sache. Donc
il a une barbe.
Il a une barbe, ça c'est vrai.
Un
t-shirt de panda. C'est Michel qui donne des éléments de contexte. Et donc une des caractéristiques de son œuvre, c'est que ce sont des polars échevelés, dans lesquels le plus souvent il y a un certain nombre de gangs qui s'échangent des arguments, et puis aussi des coups de mitraillette, et qui ont la particularité de représenter à chaque fois très souvent des courants philosophiques, hein, puisque ça c'est une des dimensions de ton œuvre vraiment. Alors avant qu'on en vienne à la nouvelle, là, Une fellation quasi nulle, qu'on présentera dans le cours de l'émission, je voudrais peut-être que tu commences par nous dire un peu d'où t'es venue, toi, cette espèce d'inspiration philosophique là, et la manière dont tu l'utilises dans tes œuvres, puisque c'est les titres même, hein, pour préciser un peu, Le crépuscule des guignols, c'est une espèce de légère déviation sur un titre de Nietzsche. Bon, Flikozov, vous avez compris, voilà, qu'il y a aussi une allusion derrière. On est quand même un petit peu dans la philosophie, et puis aussi un petit peu dans la parodie. Là, on va arrêter un petit peu d'être sérieux quand même. Donc, d'où te vient, peut-être pour commencer, ça, cet intérêt pour la chose philosophique et la manière dont ça alimente tes différents livres?
Ben, comme le fait remarquer si justement mon éditeur sur Le crépuscule des guignols, en quatrième de couverture, j'ai raté 3 fois l'agrégation. Ah ouais. De philosophie. Ah. Ce qui m'a profondément marqué, profondément choqué, et je crois que j'avais un compte à régler avec la philosophie, et comment mieux le faire qu'au travers de ces romans où je mets à mal la plupart de mes enseignants, ainsi que tous ces philosophes qui auront marqué mes études pendant 8 années d'université.
Ouais, alors les mettre à mal, c'est peu dire, hein, parce que quand même le premier livre que t'as publié il y a quelques années déjà, donc Flikozov, il mettait en scène en fait une espèce de gang un peu secret dans la bonne ville de Tours, qui non seulement réglait des comptes avec des philosophes, mais les réglait dans le sang, hein, faut quand même le dire. C'est-à-dire que dans ce polar, on trouve des grands noms de la philosophie française, Derrida, Clément Rosset, Janicot, Jean-Luc Marion, qui sont des auteurs tout à fait respectables, sans beaucoup d'intérêt, mais qui finissent tous morts. Hein. Derrida est retrouvé au fond d'un conteneur à déchets. Clément Rosset crucifié sur le mur d'une maison de centre-ville de Tours. Dominique Janicot est pendu et viscéré. Donc effectivement, c'est quand même un contentieux assez lourd que tu as avec ces grandes figures de la pensée française.
Alors, c'est pas tant un contentieux que finalement un postulat philosophique. Si on a tous bien lu Heidegger, je crois qu'on aura tous compris que l'humain est un être pour la mort. Et quelle conclusion plus magnifique que ces explosions éviscérées.
Ouais, d'accord. Donc au fond, il y a un contenu, il y a aussi un contenu philosophique dans tes romans, il faut le dire, très inspiré par un philosophe dont on parle relativement peu, qui est quand même une des références de Bernard-Henri Lévy.
C'est, pour dire le moins.
Pour dire le moins. T'es très inspiré par l'œuvre de Jean-Baptiste Botul. Alors, est-ce que tu peux nous en dire 2 mots un petit peu? Qui est ce philosophe? En quoi, effectivement, c'est une source d'inspiration pour toi? Et puis, en quoi ça t'inspire, quoi?
Ben, Jean-Baptiste Botul, maintenant, je pense que tout le monde le sait, hein, après cette magnifique citation de Bernard-Henri Lévy dans un de ses derniers ouvrages, était un philosophe de la première période du XXe siècle, essentiellement oral.
À l'âge, ça c'est important, hein.
Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire qu'à l'âge de 30 ans à peu près, il décide de brûler tous ses écrits et de ne continuer la philosophie que par le biais de l'oral. Il va, pour ce faire, créer un courant qui lui est très très personnel, hein, qui est la la taxi-philosophie ou la taxi-psychanalyse. Donc il était chauffeur de taxi à Paris pendant une des périodes de sa vie. Il faut savoir que Botul a énormément voyagé, a parcouru le monde, rencontré énormément de personnages historiques, politiques, philosophiques importants qui ont marqué leurs époques. Et donc revenu à Paris à une période, il crée donc ce courant où il analyse ses clients dans son taxi, ce qui lui vaudra d'ailleurs un procès, puisque qui fera l'objet de tout un livre. Donc qui lui vaut ce procès, hein, où on l'accuse d'avoir attenté à la pudeur d'une jeune femme.
Ah oui, oui, donc on comprend effectivement que ça a pu inspirer un peu après la plupart de tes textes. D'ailleurs,
en particulier pour ton procès.
Oui, oui, tout à fait. Mon procès, au cours duquel j'ai repris donc quelques, pour ma défense, quelques passages de cet donc éminent livre qui était un des premiers. Donc Botul, étant de tradition orale, n'a plus rien écrit après avoir brûlé ses manuscrits, sauf quelques préparations de conférences, ce genre de choses. Donc d'éminents philosophes et chercheurs ont exhumé ces textes, gardés dans une armoire de sa maison de famille à Lerrière dans l'Aude. Et donc le premier livre sorti il y a de ça quelques années s'intitulait La vie sexuelle d'Emmanuel Kant.
Oui, ça a beaucoup fait couler d'encre à l'époque. Hein.
Tout à fait. Et donc voilà, je me suis servi au cours de mon procès de quelques-unes des citations de Botul de façon à montrer que j'étais dans mon juste droit.
Bien. Alors bon, pour que les auditeurs s'y retrouvent un petit peu quand même, on dira que bon, il y a deux sources d'influence majeures chez toi, on peut le dire. C'est donc Jean-Baptiste Botul, tu viens d'en dire un mot. Et puis le deuxième, vous l'aurez compris, c'est un certain Jean-Bernard Puy, qui lui est un auteur de polar et qui a, je crois, aussi eu pas mal d'influence sur ton écriture.
Oui. Il a l'avantage d'être réel déjà, Puy.
Oui, et vivant. Oui.
Enfin, oui, c'est-à-dire que Puy est encore vivant. On espère qu'il le restera longtemps. Botul est effectivement mort il y a de ça quelques années. Ouais. Oui, alors Puy a eu une énorme influence sur mon parcours. Je préparais pour la première année le CAPES, que j'ai raté 4 fois.
De philosophie.
La grecque,
hein.
3 fois. Oui, ouais. De philosophie, ouais, bien évidemment. Ouais. Et donc perdu dans ma chambre sous les toits à Tours à l'époque, où je travaillais à la préparation de ce concours tel un moine. Parallèlement à ça, je rédigeais mon mémoire de maîtrise. Et un couple d'amis a trouvé de bon ton de m'offrir Spinoza en cul et gueule.
Eh oui. Excellent livre, que j'en recommande à tout le monde. Même s'il est très peu question de Spinoza et des gueules, il y a quand même tout un passage où il y a un attentat formidable qui est commis et où, en prenant des avions, un gang repeint en rose le Sacré-Cœur.
Tout à fait.
Et ça, je pense que c'est une très bonne idée, même si personnellement, je serais davantage porté à la destruction littérale du Sacré-Cœur, mais une profanation, c'est pas mal non plus, quand même.
Mais là, je pense qu'il y a là un acte éminemment spinozisto-kantien et très esthétique.
C'est pas du tout kantien.
À mon sens. Ah, si, dans l'esthétique.
C'était du sublime, alors.
Voilà, tout à fait. J'allais parler de la critique, de la troisième critique, justement, de ce passage du sublime, cette espèce de moment de torpeur où nous sommes subjugués par ce qui nous est présenté.
Bon, et on peut dire, en un sens, c'est à peine exagéré de dire que Jean-Bernard Puy est une espèce de parrain, finalement, pour toi, en littérature, de parrain au sens presque mafieux du terme. Hein.
Oui, tout à fait.
Et donc, effectivement, aussi bien sur les thématiques que sur l'écriture, tu t'inscris, toi, voilà, résolument, hein, comme on dit dans les émissions, il s'inscrit résolument dans le sillage de l'œuvre de Jean-Bernard Puy.
Oui, tout à fait. Comme tu le disais, c'est mon parrain en littérature. Après avoir lu Spinoza en cul et gueule, je me suis précipité chez mon libraire le plus proche pour commander à sec Spinoza en cul et gueule, la suite. Oui. Et puis quelques années plus tard, bien évidemment, avec une poignée de sable.
Ouais. Le tome 3.
Le troisième tome.
Le premier reste le meilleur.
Bon, alors, ça, c'est pour situer un petit peu, effectivement, la tradition, hein, littéraire, dans laquelle, littéraire et philosophique, hein, comme tu l'as expliqué, dans laquelle tu te situes, toi. Alors, on a dit deux mots un petit peu de Flikozov, qui était un petit peu ton entrée sur la scène littéraire, hein, on peut dire. Alors, est-ce que tu peux nous dire deux mots des thèmes, des récits un peu développés, là, dans les deux autres livres, ensuite, que tu as publié? Donc, Le Dolmen des Dieux, déjà, alors
Le Dolmen des Dieux, c'est un roman qui s'inscrit dans la série Le Poulpe, initié par Jean-Bernard Pouy, donc cet enquêteur libertaire qui, prenant des petits faits, va aller rendre la justice là où les autres n'iraient pas forcément mettre leur nez. Ça, c'était une sorte de rêve d'adolescent, parce que donc, comme je le disais, j'ai découvert Jean-Bernard Pouy grâce à Spinoza enculé gueule, et à cette époque-là, après avoir lu quelques Conan Doyle et quelques Agatha Christie à mon corps défendant, il fallait bien, quand on était au collège et au lycée, lire ce genre de trucs, j'avais pas du tout lu de polar. Et à partir de Jean-Bernard Pouy, j'ai découvert là tout un courant littéraire qui s'appelait le néo-polar, initié en France par Manchette, par Fajardi, tous ces auteurs-là, et donc Pouy, Rénal, Deninx, Reboux, tous ces auteurs-là s'inscrivaient dans cette lignée. Et je me suis plongé à corps perdu dans cette.
Bon, j'espère que tu as lu Manchette depuis quand même.
Ah, bah oui, bien évidemment, oui.
Bon, il y a intérêt. Je te fais une interrogation dessus après.
Voilà. Très bien.
Ça, c'est une intervention de Michel. Alors, le dolmen quand même.
Donc, le dolmen des dieux, bah, donc une aventure du poulpe, qui était justement une sorte de rêve donc, d'adolescent qui a fini par se réaliser, dans lequel j'avais envie de revenir. Donc, c'est le 268e livre, puisque donc il y en a eu pléthore, et j'avais envie de retrouver.
Je t'interromps juste deux secondes pour situer sur les auditeurs qui sont pas forcément au fait du polar en général. Le poulpe, c'est une série, finalement, donc c'est un personnage,
hein, tout à fait,
et ensuite dont se sont emparés toute une série d'auteurs, donc voilà, entre autres ceux que tu évoquais à l'instant, et donc toi tu as effectivement voilà contribué à cette espèce de longue chaîne là de d'auteur investi sur ce personnage du poulpe.
Ouais.
Voilà.
Bah, le principe de la collection, effectivement, quand le personnage a été créé, c'était de faire en sorte que chaque auteur qui a envie de raconter une aventure du poulpe puisse se saisir du personnage, de son univers, et puis de lui faire vivre, de lui créer une histoire.
D'accord. Et toi, tu l'as plutôt vu du côté de la Bretagne ?
Moi, je l'ai plutôt vu du côté de la Bretagne. Ouais. J'ai essayé de revenir. Il y en a quelques-unes de ces aventures se passent là. Pour moi, c'est une région un peu particulière, familialement marquée. Voilà, avec tout plein de mon roman est tout plein de stéréotypes. On y retrouve la Bretagne telle qu'on rêve de la voir, telle qu'on la rêve de la voir pendant des vacances qu'on va y passer.
Ouais. Ça mitraille pas mal, hein.
Ouais, ça mitraille pas mal.
Il y a des philosophes qui meurent aussi là.
Alors étrangement, pas dans celui-ci. Alors il y a quand même quelques références, puisque une des particularités du poulpe de chacun de ses romans, c'est que l'auteur va choisir un livre issu du théâtre, de la littérature, d'un peu partout, et puis le poulpe est en train de lire en fait ce livre pendant son aventure. Donc on peut émailler le récit de quelques citations. Je n'ai pas pu m'empêcher de prendre et de choisir avec toute la force de mon cœur Vivre et penser comme des porcs de Gilles Châtelet.
Oui, c'est un bon choix.
Un philosophe français des années 70, et oui, qui tient un petit peu de
non,
fil rouge.
C'est si pas François Châtelet, c'est le fils de François Châtelet.
Il n'est pas français ?
Il est français, ah. Il était mathématicien, ouais. Il s'est suicidé, mais il a écrit dans les années 90 Vivre et penser comme des porcs. Voilà, un petit peu de rigueur historique quand même dans cette émission, ça ferait pas de mal. Mais bon, si on laisse les choses à Jean-Mathias, ça ira pas du tout. Voilà, ouais. Mais bon. Ouais, oui, Chrysostome, tu disais.
Non, mais j'en avais terminé.
Donc ça, c'était sur le dolmen des dieux. Quelle année ?
Le dolmen des dieux, c'était en 2009, je crois.
D'accord. Bon, et ça a bien marché, ça ?
Écoute, oui, ça a été une belle surprise, parce que pour un auteur absolument inconnu, malgré la charge et le poids de mon œuvre...
T'avais écrit un livre quand même avant.
Ouais, oui, j'avais écrit un livre chez un tout petit éditeur, qu'on n'a quasiment pas vendu,
mais qui était mortel. Hein.
Voilà, mais qui était de grande qualité. D'ailleurs je tiens à dire que mon regret par rapport à ce livre-là, et puis donc au Crépuscule des Guignols, qui s'inscrit dans une sorte de suite, sont à mon sens, alors je ne suis peut-être pas très objectif là-dessus, mais sont à mon sens peut-être les meilleurs manuels de philosophie qu'on pourrait mettre entre les mains de jeunes lycéens s'attaquant à ce domaine.
Oui, et puis qui se destinent au concours de l'enseignement, parce que...
Oui, 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 tout à fait. Enfin, je pense que là, on a là une matière, un fond absolument élémentaire.
Une méthode, il faut le dire. Une méthode.
Je propose dans ces ouvrages quand même une méthode de réflexion philosophique, poussée, avancée, qui n'est certes pas la plus fine, mais qui, à mon sens, en tout cas, lorsqu'on veut préparer son entrée dans des écoles supérieures, ou en tout cas, si on veut essayer de briller un petit peu en société, par exemple, sont des livres absolument essentiels.
Ça, c'est vrai qu'il faut le répéter, ça. Si on veut briller en société,
peut-être vous éviteront de perdre 4 ans de votre vie à préparer l'agrégation de philosophie, par exemple. C'est quand même pas rien. Voilà, imaginez que vous gagnez 4 ans dans votre vie. Ouais. C'est énorme.
Ouais. C'est-à-dire que si j'avais eu ce livre-là entre les mains au moment où je passais l'agrégation, où je préparais l'agrégation, je pense qu'aujourd'hui, je serais très certainement au minimum maître de conférence en université. Alors,
c'est ce qu'on disait avant l'émission.
Peut-être pas à la Sorbonne, mais éventuellement à Nanterre.
Donc ça, il faut que l'auditeur le sache. Et d'autant qu'on découvre aussi un petit tu l'évoquais, il y a à la fois le contenu intellectuel, ça tu viens d'en dire deux mots, et puis la Bretagne, quoi. Moi je me lasse pas de revenir là-dessus. Bon. Donc ça c'était effectivement le deuxième opus,
on peut dire. Le poulpe mange des crêpes.
Mange une galette. Oui, tout à fait. Alors, j'en ai profité aussi pour faire un petit peu de publicité pour une brasserie tout à fait locale. Donc, son aventure se passe dans les Côtes d'Armor, essentiellement autour de Saint-Calguildo, très charmante bourgade où j'ai passé de nombreuses vacances. Donc, je laisse aux auditeurs le soin de lire cette aventure pour découvrir les bières que le poulpe y boit. Et je leur propose de boire ces bières en lisant ce livre. Ça ne peut être qu'une aventure extraordinaire.
Le Dolmen des Dieux, Le Dolmen des Dieux, et donc on va faire une première pause peut-être musicale, pour laisser à l'auditeur le temps de digérer un peu ces informations-là.
Morceau donc choisi par Criso.
Alors le premier, on n'a rien dit sur le premier morceau. Oui. On l'a pas évoqué.
Dis-le.
Alors le premier.
Le premier morceau. Les oiseaux de passage, une magnifique chanson de Brassens qui pour moi est sans doute l'hymne libertaire le plus fantastique qui soit, repris par les Brassens Not Dead, un groupe toulousain punk qui ne fait que de la reprise de Brassens. C'est absolument fantastique. Je ne peux que conseiller aux auditeurs de se précipiter sur leur chanson.
Et on ne l'avait pas dit, en plus ils viennent de Toulouse. Voilà. Deuxième pause musicale.
I wanna destroy passers-by, 'cause I wanna be anarchy. You know it, yeah. Anarchy for the UK. It's coming sometime, maybe. Make a wrong sign, stop a traffic line. Your future dream is just a shopping scheme, and I wanna be anarchy. Yeah, that's it. Let's take it to the bridge.
To the bridge. Come on.
Whoa. You might feel sad for a while. That's 'cause we've gone into a minor key. We'll get right back to anarchy in a minute. There you go. There are many ways to get what you want. I use the best, I use the rest. I use the enemy. I use the ukulele, and that redneck thing. Yeah.
this, the IRA. I thought it was the UK or just another country.
Help me out here, folks. Here we go. Last chance. Here we go. That's it. Now for some advice.
Get pissed. Destroy.
Bonsoir à tous, vous êtes toujours sur Radio Liberté à 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu ni maître ni publicité. Et c'est Jeudi Noir pour cette dernière émission de l'année, où nous avons le plaisir et l'honneur, il faut le dire...
De l'année scolaire.
De l'année scolaire, bien sûr.
Des formations professionnelles.
Vous me dites les gars quand j'y vais. Nous avons donc
tu peux y aller.
Merci. Nous avons donc le plaisir et l'honneur d'accueillir Chrysostome Goriot ce soir. La joie. Il vient de Toulouse, c'est un des chefs de file du néo-polar philosophico-libertoïde français.
Il faut dire qu'ils sont français. Pas nombreux non plus dans le lot. Hein,
français, ouais. Français, j'insiste. On a
de
parlé...
pire en pire, Jean-Médias.
On a parlé jusqu'à présent, on l'invite pour l'ensemble de son œuvre, je le répète.
Et aussi parce que c'est un vieux pote de fac.
C'est
hein,
aussi
quand même
un vieux pote de fac, et c'est, donc on l'invite pour l'ensemble de son œuvre. Et on a déjà évoqué donc, les deux premiers livres qu'il a édités il y a déjà quelques années. Le premier, donc Flicosophe, où il était question d'une espèce d'hécatombe de philosophes français connus. On a évoqué à l'instant le Dolmen des Dieux, et là, on vient d'écouter un morceau. Qui est une espèce de reprise hawaïenne, anglo-hawaïenne. Ah, non, alors, des
là, il faut quand même resituer les choses dans leur contexte. C'est le Ukulele Orchestra of Great Britain. Pardon pour mon accent. Donc, un orchestre de ukulélé qui fait des reprises absolument fantastiques de standards en tout genre. Donc, ici, Anarchy in the UK. On pourra retrouver aussi Smell Like Teen Spirit. Une reprise absolument formidable du Bon, la brute et le truand. Ou Psycho Killer.
D'accord. Et c'est donc un choix de l'invité. Hein. Nous on a plus la main là-dessus. Hein. Je l'indique auprès des auditeurs.
Oui. Alors, je voulais prendre un petit morceau de Brahms, oui. Mais on m'a dit non. Écoute, ça a déjà été fait. Ce serait un petit peu trop répétitif.
Ça a été fait. Alors on va continuer.
On n'entra pas à la répétition. Hein. On a dû passer 50 morceaux de Nominsno dans l'année.
Oui, c'est
enfin,
vrai.
Pas l'année, mais depuis le début de l'émission.
Alors,
y a-t-il un peu de différence dans la répétition?
Je me permets d'intervenir.
Donc,
pour prolonger l'interview. Alors, on a
évoqué, donc, je le rappelle, celui-là.
Ces deux premiers livres. On va parler peut-être maintenant du troisième, de ton troisième livre, qui s'appelle Le Crépuscule des Guignols, aux éditions Baleine. Alors, Le Crépuscule des Guignols, donc deux mots sur le titre, peut-être, là.
Oui, bah c'est un... Au départ, je pensais appeler ça Le Cri pur de l'Arès ontique.
Ouais.
Jeu de mots absolument
c'était moins
monstrueux,
bon, hein.
Monstrueux ouais. Sur la critique de la raison pure. Res en latin, ça veut dire la chose, tout ça, bon bref.
Et, antique en plus, c'est de l'Heideggerien, donc ça fait mauvais genre.
Oui, mais c'était totalement dans le thème du roman. Et mon éditrice m'a dit, si tu changes pas le titre, on prend pas ton livre. Bon, alors j'ai dit très bien, on va en trouver un autre. Et je me suis dit, bah tiens, Le Crépuscule des Guignols, c'est pas mal. Il y a jeu de mots aussi, c'est peut-être un peu moins cryptique. Les gens comprennent à peu près. Si on voit pas la référence à Nietzsche, c'est pas très grave. Voilà.
Ouais, parce que Nietzsche a écrit un livre qui s'appelle Le Crépuscule des Idoles. En plus, je trouve que. Alors, je n'ai pas lu le livre, hein, parce que j'ai pas lu tes livres, de toute façon. Mais. Ce que j'aime bien, c'est qu'il est question d'Heideggerien dans ce livre et que ça s'intitule Le Crépuscule des Guignols. Ouais. Et je trouve ça assez bien choisi en fait.
Ouais, parce que t'as mauvais fond. Alors je vais lire un chapitre tout de suite pour mettre un.
Non, mais ça dépend de la racine du mot fond. Tu penses en grec ou en allemand ici?
Alors le chapitre 42 de ce texte, Le Crépuscule des Guignols, est intitulé Arthur, les intellectuels et le ballon rond. étrange situation que la nôtre. D'assiégeants, nous étions devenus assiégés. Malgré notre fierté, malgré notre volonté de tenir jusqu'au bout, nous ne ferions pas front beaucoup plus longtemps. À chaque tir, nos munitions s'épuisaient un peu plus. Volo était blessé et Scalpa venait de tomber. Je regardais d'un œil Lazare lui prodiguer les premiers soins. De l'autre, je surveillais l'avancée inexorable de nos assaillants. Ils progressaient et ils finiraient par entrer. J'en alignai un qui avait eu la témérité de se découvrir. Kablam ! Il s'écroula. Dans le même temps, deux autres sortirent de leur abri et l'une de leurs balles m'arracha quelques cheveux et un peu de peau. Au même instant, un infime mouvement dans mon dos me jeta à terre. Là où je me tenais une fraction de seconde auparavant, passa une rafale dévastatrice. Je roulais sur le sol en tirant vers l'accès aux étages. Rafale. Une ombre s'écroula. Lazare, couloir. Je regagnais d'un bond l'abri précaire des distributeurs de boissons. Lazare grimpait déjà les degrés pour me rejoindre, mais les tirs avaient repris. Ils étaient descendus mettre fin à cette histoire pour nous anéantir, ne pas laisser une miette de nos corps. Et nous allions faire de même. Nous avions pour nous le droit et la loi morale. Les paroles de Kant étaient inscrites en lettres de feu au fond de mon cœur. Agis de telle manière que la maxime de tes pensées puisse être érigée en loi universelle. Je le pouvais. Lazare le pouvait. David le pouvait. Eux, tous en bas, mitraillant à tour de bras, le pouvaient. Et James aussi, qui hurlait dans mes oreilles, « I'm gonna make you, shake you, take you. I'm gonna be the one who breaks you. Put the screws to yeah my way. Yes, come on, make my day. » Mais Deleuze en était incapable. Il avait confondu la généralité et l'universalité, avait cru pouvoir fonder sa légitimité sur la force et la mort. Il était temps d'en finir une bonne fois pour toutes.
Pourquoi c'est le ballon?
Alors, parce qu'en fait, après, il y est... Question très légèrement de football.
D'accord.
Dans ce passage.
C'est une œuvre totale, hein. Une question d'à peu près tout. Hein.
Voilà.
La Bretagne.
Le football.
Alors,
Deleuze.
Voilà.
La bière.
Les distributeurs de boissons.
Et la philo.
On a lu cet extrait pour que l'auditeur se rende compte un petit peu de l'usage que tu peux faire de la philosophie. Là, il est question de Kant, hein. C'est un philosophe allemand. Et puis, il y a aussi James, qui est un philosophe anglais.
Ça, c'est peut-être James Brown.
James Hetfield.
Oui, je me disais que c'était une.
C'est le chanteur de Metallica. Et c'est tu. Voilà.
T'es
sérieux, Criso, là?
Ouais. Oui. C'est ce que je te disais. Il me semble que cet ouvrage, peut-être même plus que Flikosov, devrait être mis entre toutes les mains de jeunes gens s'adonnant pour la première fois à la philosophie ou voulant approfondir leurs connaissances. En fait, au départ, ce roman donc est une sorte de suite à Flikosov, dans lequel j'ai voulu reprendre deux des personnages que j'aimais bien, avec lesquels j'avais pas l'impression d'en avoir terminé. Et comme dans Flikosov, l'objectif c'était que chaque personnage qui prenne place dans ce bouquin se trouve sous l'influence d'un philosophe. Donc on va trouver un kantien, un heideggerien, un rabelaisien, parce que je trouvais ça quand même plus sympa, un machiavélien, et voilà. Et puis, au bout d'un moment, se taper sur la tronche à coups de concept, bon, c'est sympathique, mais finalement, je trouvais qu'à coups de bazooka et de Desert Eagle, c'était peut-être un peu plus marrant et un peu plus concret.
Un peu plus conséquent aussi.
Oui, tout à fait. Hein ? Ouais. Tout à fait. Je pense qu'il faut, en philosophie, ce qu'on nous enseigne en université reste... profondément théorique, et on ne se confronte pas forcément à la réalité des concepts élaborés et à la violence que ça peut générer. Donc je voulais mettre en place une véritable réflexion philosophique et aller jusqu'au bout des arguments.
Bah, c'est ce qu'on a lu. Hein. On a lu ça comme ça. C'est-à-dire donc on a lu ça, effectivement, très premier degré. Il y a une particularité aussi dans tes livres, c'est qu'il y a un certain nombre de personnages aussi réels. Il y a Volo, là, notamment, donc, qui a été évoqué, qu'on salue. Hein. Okay, voilà,
on lui fait une bise.
Voilà, un grand artiste. Voilà, on invite tous les auditeurs à aller voir ce qu'il fait. C'est un grand chanteur français, Volo. Voilà, ils sont deux, d'ailleurs. Hein. Alors, donc, le crépuscule des guignols. Alors, il y a des survivants.
Des survivants ? Bah, très peu, finalement. Parce que la philosophie, comme je le disais tout à l'heure, si on l'a tous compris Heidegger, c'est mourir, quoi. Mais ça, on le savait depuis très longtemps. Hein. C'est ce que j'ai essayé de...
Il fait donc.
Oui, ça, oui. C'est ce que j'ai essayé de mettre en exergue. Hein, une petite citation de Cicéron, auteur antique, ça fait donc quand même pas mal d'années qu'on le sait, citation, philosopher, c'est apprendre à mourir. Ce à quoi un de ses célèbres disciples dont on a perdu le nom lui a répondu, et ta sœur.
Oui. Ah oui, ça on l'a... Mais c'est vrai qu'on
elle est morte, la sœur de Cicéron ?
Oui.
On ne sait pas trop.
Est-ce qu'il avait une sœur ?
On ne sait pas trop non plus.
Ah mais là, on nage dans l'obscurité, c'est horrible.
C'est le principe de la philosophie, c'est-à-dire que quand on reprend Nietzsche, et si on veut aller au fond des choses, c'est l'obscurité.
Il y a des... Je fais juste un insert, en fait, sur les remerciements que tu indiques à la fin du texte, hein, du Crépuscule des Guignols. Donc, tu remercies Iron Horse, ACDC, Dimmu Borgir, les Berus, les Clash, les Scatolites, et à la Guigne pour l'ambiance musicale. Puis après, il y a bon, des gens, tu peux t'expliquer un petit peu aussi, parce que là, c'est des références plutôt musicales. Hein.
Oui, oui. Bah, c'est-à-dire que quand j'écris, j'écoute pas mal de musique. J'ai besoin d'une ambiance pour être porté, et il me semblait que ces groupes étaient susceptibles de m'inspirer le plus essentiellement possible, en particulier Iron Horse, qui est un groupe fort peu connu de bluegrass qui reprend des chansons de Metallica avec brio. Je conseille à tous nos auditeurs dans le style de la reprise d'écouter Iron Horse. On verra comment le banjo peut se substituer à la guitare électrique de façon hallucinante.
Bon, moi, je sais plus trop quoi dire en fait par rapport à tout ça. Je vais simplement juste lire peut-être les têtes de chapitre quand même aussi, quand même pour qu'on soit. Chapitre 1, Arthur, retour en raison pure. Chapitre 2, Lazare, réveil rabelaisien. Chapitre 3, Arthur, catharsis vengeresse, Kant versus Heidegger, un partout. Chapitre 6, enquête sur les principes de la morale. Chapitre 7, Arthur, recherche de la vérité par la lumière naturelle. Ça, c'est vraiment le choix que tu as fait. C'est-à-dire, il y a chaque personnage qui incarne, effectivement, la pensée d'un grand auteur. Ça aussi, c'est quelque chose, effectivement, que tu assumes complètement.
Oui, ouais, totalement. Mmh. Puis, ce que j'ai essayé de faire aussi, donc, alors, puisque pour resituer un peu le bouquin, c'est quand même une sorte de roman choral. Dans la mesure où chaque chapitre est raconté par un personnage différent. Donc il y a en gros 5 protagonistes principaux qui racontent l'histoire à leur façon. Et ce que j'avais envie de faire, c'est de trouver un style à chaque fois pour chaque personnage qui soit en lien avec leur personnalité et aussi la philosophie qu'ils incarnent. Donc un rabelaisien qui va... parler de façon très expansive, avec des phrases un peu longues, rondes, etc., très gourmandes. Et puis un Kantien, là pour le coup, très allemand, des phrases sèches, très resserrées, courtes.
Courtes, Kant ?
Ouais, alors c'est peut-être plus allemand, je sais pas.
Ouais. Mais sinon, j'ai l'impression aussi que tu situes tes romans assez fréquemment dans un milieu post-apocalyptique, ou du moins un milieu de guerre civile, où l'autorité de l'État s'est effondrée, et où les gens ont toute latitude pour s'entretuer. Non, c'est ça ?
Oui, bah ça c'est effectivement peut-être ma...
T'as trop joué aux jeux vidéo ?
Pas du tout, en fait, j'y joue assez peu. Sauf effectivement, alors peut-être pour Le Nom des Armes, où je suis allé piocher dans un ou deux jeux vidéo, parce que c'était à peu près mes seules sources, parce que j'y connais absolument rien et qu'il fallait qu'il y ait des gros flingues dans ce bouquin-là. Non, mais ça vient peut-être là essentiellement de l'affiliation avec Jean-Bernard Pouy et cette lecture extrêmement marquante de Spinoza en cul et gueule qui se passe... Donc, qui est une sorte d'allégorie d'un après mai 68 qui se serait bien passé et dans lequel voilà, il y a des factions qui se mettent dessus sous couvert philosophique.
Juste avant l'émission, là, tu disais, parce que là, c'est des livres, il y a des éditeurs, il y a des libraires qui distribuent tout ça avec plus ou moins d'enthousiasme. Tu as des contacts avec le public. Les gens, ils disent quoi hein, quand ils lisent ça? Quand tu les rencontres en vrai?
Quand je les rencontre en vrai, ils me disent bravo. Ouais. Vous êtes formidable, continuez comme ça, à quand le prochain?
Ah oui, ouais, il ne se mouille pas plus que ça en fait. Hein.
Non, il ne se mouille pas vraiment plus que ça. Après, alors voilà, il y a des rencontres qui se font de façon un peu, pour moi, un peu étrange. Il n'y a pas très longtemps, j'étais invité par une très belle librairie à Pau qui s'appelle L'Escampette pour une fellation quasi nulle, mon dernier livre.
On va en parler.
Et j'étais très étonné, on était invité avec d'autres auteurs, Emmanuel Urien et Manu Kos, qui ont sorti, eux, un livre dans la même collection qu'une fellation quasi nulle, qui s'appelle Du temps de cerveau disponible. Et on s'est retrouvés donc face à un public d'une trentaine de personnes qui nous ont posé des questions extrêmement sérieuses, un peu comme celle que vient de me poser Michel sur cette réflexion.
Ça nous a plus étonné d'ailleurs. Hein,
post-apocalyptique.
Ça m'échappait, je ne recommencerai pas.
D'une société bien plus perturbée que celle dans laquelle on vit. Et en sortant, j'avais l'impression d'avoir écrit une sorte de thèse ou d'article d'anticipation sociale sur un possible développement de la société. Alors finalement, mes bouquins ne sont peut-être pas forcément aussi sérieux.
Mais tu vois, dans le truc genre roman polar philosophique, il y en a un qu'au début j'aimais bien et qui maintenant me ressort par les trous de nez, les oreilles et le reste, c'est Dantec. Et ah, tu fais une grimace. On va s'entendre là-dessus. Parce que lui aussi, il avait commencé un tout petit peu comme ça. Mais tu vois, est-ce que tu penses que c'est... Enfin, moi, je me demande si c'est pas un risque, si dans ce genre-là, finalement, le risque qu'on pourrait formuler de façon assez simple, hein, qui consiste à finir par péter plus que son cul.
On s'est mis d'accord, hein, je précise pour les auditeurs, qu'on s'est mis d'accord qu'il y aurait quelques minutes sérieuses dans l'émission, et qu'en fait, c'est Michel qui allait s'y coller. Donc là, c'est une question sérieuse.
En fait, normalement, l'ordre était inversé, mais Jean-Mathias, qui connaît pas grand-chose, il a pas pu te poser des questions sérieuses, donc je suis obligé de te compenser.
Donc c'est le moment sérieux, là. Donc c'est une question sur effectivement les tendances du polar actuel. Hein.
Ouais.
En fait, alors c'est le post-apocalyptique, je suis pas sûr que ce soit un vrai choix. Je m'inscrirais peut-être plus dans l'anticipation sociale, donc un peu dans le biais d'une fellation quasi nulle. Donc, je sais pas si on peut en parler tout de suite ou si
on en parlera dans quelques minutes.
On en parlera après, mais donc ça s'inscrit dans une collection d'anticipation sociale. Et je pense que c'est plus, pour l'instant en tout cas, c'est ça qui me motive, c'est ça qui me fait rire, c'est ça qui m'amuse, c'est là-dedans que j'ai envie de m'engager. Mais c'est pas pour autant que je ferai ça à longueur de temps. J'ai d'autres projets qui sont pas forcément situés dans ces univers-là.
Ouais. Non, mais je pense que par rapport au polar français actuel, parce que t'as beaucoup cité des références finalement des années 60-70, tu vois, Manchette.
Ouais, ça fera plaisir à JB quand tu lui diras qu'il date des années 70.
JBP.
Ouais, mais.
Jean-Bernard Pouy.
Oui, bah, Pouy, moi je l'aime beaucoup, hein. Que les choses soient claires, mais en même temps, c'est une génération, tu vois, c'est la génération post-Manchette, plutôt années 80, mettons.
Oui, mais alors aujourd'hui, il y a d'autres auteurs qui me semblent, en tout cas, se réclament à la fois de cet héritage-là et puis s'en sont détachés, peut-être contrairement à moi qui suis encore très dans cette filiation-là. Je pense à des auteurs comme Marin Le Dain, comme Antoine Chénas, comme Caril Ferré, qui sont aujourd'hui des auteurs de romans noirs très qui font partie de la, qui sont en tout cas pour moi la tête de file des jeunes auteurs qui sont d'excellents écrivains, qui sont plus dans cette veine-là, mais qui se réclament de cet héritage-là et qui peut-être ne seraient pas arrivés là où ils en sont s'il n'y avait pas eu toute cette batterie d'auteurs qui ont fait sortir le roman noir et le polar de ce qu'était la série noire justement jusque dans les années 70-80, qui était une collection qui se réclamait du roman noir américain, qui était très cadré. Eux, ils ont fait à la suite de Manchette, de Fajardi, encore une fois, parce que c'est un auteur dont on parle très peu, mais qui pour moi est un auteur majeur dans ce domaine-là. On fait exploser les cadres du genre, du polar, du roman noir. Après, sont arrivés d'autres auteurs en France.
C'est marrant parce que Manchette, en même temps, dans ses essais, se réclame énormément de la littérature américaine,
oui, tout à
et
fait.
En particulier du behaviorisme,
tout à fait.
Qui l'analyse de façon, à mon avis, extrêmement éclairante d'ailleurs.
Oui, mais comme des auteurs comme, j'allais oublier Jean Mecker, Jean Amila, qui sont effectivement des auteurs qui viennent du polar et du roman noir américain, mais qui en ont fait autre chose et qui sont sortis des cadres très standards de cette époque-là pour donner un nouveau souffle au roman noir.
On va peut-être faire une autre pause musicale. Et voilà, on se retrouve dans 5 minutes.
Yeah.
Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire, donc la radio de la Fédération Anarchiste, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. Et donc pour une fois, vous n'aurez pas une introduction de 5 minutes, parce que c'est moi qui parle et pas Jean-Mathias. Et voilà.
Mais putain, donc, on est un peu court quand même en temps, là. Oui.
Mais donc vous aurez une introduction de 10 minutes à la place. Et cette fois-ci, donc, nous allons aborder la dernière grande œuvre de Chrysostome Gouriot.
Celle qu'on attend tous, en fait.
Celle qu'on attend tous, celle qui manquait sur votre table de chevet, celle qui manquait dans vos toilettes quand vous vous ennuyez. Et ce genre de choses. Et Chrysostome a l'air désespéré, je vous l'assure. Nous faisons tout pour le mettre mal à l'aise. Et donc, voilà, c'est une fellation quasi nulle. Donc, publiée Social Fiction.
Aux éditions Inuit.
Aux éditions Inuit, voilà. Je vois pas trop le rapport.
C'est un éditeur palois qui est spécialisé dans la nouvelle, genre littéraire, qui aujourd'hui se perd et qui pourtant est fondamental.
D'accord. Alors, la quatrième de couverture est rigolote. Donc, je vous la lis. Toulouse 2037, en 25 ans de pouvoir, la gauche a construit une société proche de l'idéal. Alors, je vois pas de quoi tu parles, la gauche. Enfin bon. Chômage inexistant, retraite à 55 ans, mariage sexuel autorisé, croissance constante, nombreuses lois ont été adoptées pour garantir bien-être et santé à chacun. Le gouvernement a ainsi interdit la fellation, pratique qui, comme on le sait, augmente dangereusement le risque d'infarctus chez les hommes. Lassés d'un environnement aseptisé, deux amis, Anard décide d'ouvrir la Fumerie, un bar librairie bordel à tendance libertaire libertin. Pour l'État, c'est une véritable déclaration de guerre. Oui, Jean-Mathias, tu voulais le livre, là tu le réclamais à corps et à cri.
Je vais développer un petit peu parce qu'il y a quand même des informations qui sont dignes d'intérêt et qui méritent d'être portées à l'attention de nos
du public. Oui.
Je suis à la page 10 de ce texte, une fellation quasi nulle. Suivant une étude issue d'un centre de recherche américain, le ministère de la Santé a montré que le pourcentage d'infarctus suite à une fellation est supérieur à un simple coït. La part fantasmatique étant très investie, l'homme monopolise 15% de neurones supplémentaires, son cerveau consomme du sang en grande quantité, le cœur travaille dur et au moment de l'éjaculation, l'afflux sanguin dans la verge et le visage est extrêmement important. Le muscle cardiaque est donc plus sollicité que dans toute autre position. En sus, son rythme achronique, accordé à la respiration, a pour conséquence de provoquer des ratés dangereux pour les personnes atteintes d'une fragilité myocardique. C'est pourquoi il a été décidé, hein, on est toujours dans texte, d'interdire cette pratique sexuelle aussi bien de façon publique que privée. On peut reconnaître que depuis, les films porno ont perdu une grande partie de leur intérêt. C'est le début de la nouvelle que tu publies, là, Chrysostome Gouriot, une fellation quasi nulle.
J'adore quand tu m'appelles Chrysostome Gouriot. J'ai l'impression d'être JT de Laurent Delahousse.
Bonjour.
Bon, en dehors des présupposés machistes de ton roman, qui sont absolument insupportables, c'est quoi l'objet ?
Alors l'objet, c'est une nouvelle qui s'inscrit déjà dans une collection qui s'appelle « Quelqu'un m'a dit ». Le principe de la collection est de reprendre une phrase qui a marqué l'actualité sociale ou politique. « Casse-toi pauvre con, si à 50 ans t'as pas ta Rolex, du temps de cerveau disponible. »«
Quelqu'un m'a dit. »«
Yes, we can. » Quelqu'un m'a dit, oui, nous avons une pensée émue pour cette magnifique chanteuse. Et donc d'imaginer ce que l'application concrète de cette maxime dans une société plus ou moins proche pourrait donner. Et il m'a semblé que ce fantastique lapsus de Rachida Dati pouvait être un point de départ assez intéressant.
Le rappel, hein, il s'agissait d'une interview dans laquelle il fallait qu'elle disserte sur les perspectives de croissance en France. Effectivement, il lui est venu l'idée que les perspectives d'inflation en France étaient pas très réjouissantes. Et du coup, en fait, c'est pas ça qui est sorti. Hein,
plutôt que de dire une inflation quasi nulle, elle a dit une fellation quasi nulle.
Ouais, et nous, on n'interprète absolument pas, parce que c'est pas notre genre dans cette émission, donc on sait pas pourquoi elle a dit ça. Et toi non plus, d'ailleurs.
Absolument pas.
Et t'as repris la formule telle quelle.
Exactement.
Au sens littéral.
Tout à fait.
Voilà. Et donc, ça donne derrière cette nouvelle, hein, une fellation quasi nulle, donc, et que, dont Michel a un petit peu précisé le contenu là tout à l'heure. Alors, raconte-nous ça un peu.
Ben, c'est compliqué de raconter l'histoire, parce que sinon, comme c'est une nouvelle, c'est quand même un texte assez court, un peu condensé. Donc, Mais bon, voilà, c'est quand même l'histoire de deux vieux anards, dont un était libraire et puis un autre a été a fait plein de choses dans sa vie, qui dans cette société où finalement quasiment tout est permis parce que tout a été légiféré. Donc voilà, les...
Alors, tout est permis parce que tout a été légiféré.
Oui, voilà, mais on en revient à quelque chose d'assez lisse. Les homos peuvent se marier, adopter, procréer. On peut se shooter dans les shootrooms si on veut, on peut acheter du cannabis chez son tabagiste du coin. Enfin, tout est beau, tout est propre, tout est normé. Et puis il y a quand même quelques règles de fait, d'associations, de partis politiques parfois un peu contradictoires, qui viennent créer quelques brèches. Et donc ces deux vieux anards qui finalement n'étaient pas contre une petite fellation de temps en temps. Décide que bon, ça va bien, les petites choses jolies, fluo et tendance, et que ouvrir un bar clandestin dans lequel on pourra boire du pinard sympathique, lire des livres qui ont été mis à l'index, parce que dans cette société des livres ont été mis à l'index, notamment les livres de Jean-Bernard Pouy, on ne sait pas très bien pourquoi, et où on n'a pas le droit de se faire sucer de temps en temps, vont ouvrir ce bar pour offrir quelques plaisirs interdits à leurs clients.
Est-ce que t'es pas un petit peu dur le bilan que tu fais du socialisme au pouvoir, du socialisme de gouvernement?
Dur, non, j'ai l'impression d'être totalement réaliste. En se basant sur un modèle venu des pays de l'Est, je m'attends à effectivement des transitions politiques assez sympathiques. Je suis président, tu es premier ministre, tu deviens président, tu me nommes premier ministre, et on s'en va vers 25 ans de socialisme échevelé, qui vont nous offrir une société absolument délicieuse.
Alors je lis un autre extrait, là, on est à la page 37, hein. Je dévoile pas la fin. Je dis pas.
Hein. Je t'en remercie.
Je dis pas la fin. Car c'était ça notre idée, redorer le blason du pompier. Redonner ses lettres de noblesse à la flûte thaïlandaise. Et en faire notre spécialité. Dans notre fumerie, foin de chambre et de lit, mais deux alcôves tendues de tentures pourpres, des fauteuils crapauds confortables et d'épais coussins en velours pour les génuflexions de nos poulettes. La curée avait voulu éteindre la bouffarde, nous allions la rallumer à coups de lèvres expertes.
Et tu parles du cunnilingus ?
Alors, il n'y est pas du tout question.
C'est pour ça que je dis que c'est un roman machiste.
Ça,
c'est
tout vrai. À fait. Tout à fait. Phallocrate.
Phallocrate.
Phallocrate, ouais, exactement. Ouais. Tout à fait.
Mais t'assumes en plus.
Oui, tout à fait. Oui, j'assume tout à fait. Oui, puisque dans cette société que j'imagine, étrangement, le cunnilingus, lui, n'est absolument pas interdit. Il faudrait peut-être qu'un homme ou une femme politique fasse un lapsus sur le cunnilingus et peut-être qu'un auteur se saisira de ce lapsus pour en faire une œuvre.
Ce qui est plus difficile.
Sachant donc qu'après cette magnifique sortie de Rachida Dati, trois jours plus tard, me semble-t-il, Brice Hortefeux parlait des empreintes génitales au lieu d'empreintes digitales. J'hésite à faire une sorte de suite.
Ah, c'est vrai que là, il y a tout un programme là-dedans.
Il y a un programme, oui.
Oui, je pense que là, on peut imaginer des frontières, des raccompagnements. Enfin, voilà. Il y a pas mal de choses à creuser. C'est pour ça que je trouve un peu. C'est pour ça que je fustige un petit peu la gauche socialiste dans cette nouvelle. Je les trouve beaucoup moins drôles que la droite au pouvoir il y a quelques années. Au moins, on s'était bien marré avec leurs conneries.
Bah, c'est sûr, entre la droite complexée, qu'on appelle aujourd'hui Parti Socialiste, et la droite décomplexée, voire déboutonnée, si on veut rigoler, vaut mieux la droite déboutonnée.
Alors, dans le roman précédent, là, Le Crépuscule des Guignols, tu nous expliquais qu'en fait, il y avait tes personnages à chaque fois, étaient incarnés un philosophe et essayaient de mettre en application, y compris les armes à la main, les conséquences de tel ou tel texte. Là, pour le coup, les deux personnages que tu mets en scène là, dans cette nouvelle, là, ils sont assez nettement rabelaisiens, ceux-là. Hein, on a de la littérature, on a du bon. Ils sont c'est des rabelaisiens phallocrates, hein, comme tu disais.
Oui, on peut dire ça comme ça, oui.
Donc ils aiment la littérature, notamment celle qui est indexée, c'est-à-dire interdite. Hein. Ils aiment les plaisirs de la chair, en l'occurrence. Et puis ils aiment bien le bon vin aussi, notamment le Saint-Nicolas de Bourgueil. Ça, c'est encore une espèce de... On a un fil là qui nous suit, hein, depuis le premier roman Tourangeau. Là.
Mais de toute façon, on n'écrit pas à partir de rien. On a des contextes, des filiations. Donc, il n'y a pas de raison que je me fasse pas plaisir aussi en reprenant quelques petites citations personnelles et quelques petits plaisirs personnels.
Ouais. Elle est marrante, cette nouvelle. Elle est marrante, elle est phallocrate et elle est drôle en même temps. Donc, on conseille vraiment, là, effectivement. Alors, ça finit pas très bien. En même temps, tout ça, il y a toujours cette idée-là. Là, c'est une espèce de petite parenthèse, quand même, hein, leur histoire. Là, on ne dit pas la fin. On ne dit pas la fin.
Hein? Oui, alors, je pense qu'effectivement, les histoires, mes histoires telles que je les écris sont conçues un peu de cette manière-là, toujours une espèce de parenthèse lumineuse entre guillemets dans un monde qui lui est relativement sombre. Donc le poulpe, c'est cette espèce d'enquêteur. Alors là, je m'inscris dans la collection, mais c'est pas pour rien non plus que j'avais envie d'en écrire un. C'est un enquêteur libertaire qui va essayer de rendre la justice là où personne ne va aller mettre les pieds, essayer de donner un peu de vie et d'espoir à des gens qui n'en ont pas forcément. Flikozov et le crépuscule des guignols sous le couvert de bastons philosophiques, c'est aussi cette envie de dire que la pensée peut aussi apporter un certain espoir. Et puis dans celui-là, oui, c'est ces deux personnages qui dans une société finalement assez fade, parce que très lisse, très plate, très aseptisée, vont mettre un petit coup de bordel pour essayer de mettre un peu de joie et de vivacité là où il n'y en a plus forcément.
Et ce qui est marrant, c'est que même les bureaucrates, ici, ils se prennent, hein, dans la nouvelle, là. Il y en a un qui vient, là, on va pas dire la fin. Hein. Il y a un bureaucrate qui se fait, hein, qui ça, tu penses qu'ils ont ça en tête aussi, là, qu'ils ont besoin de petites bulles aussi, là.
On n'est pas, il n'y a pas d'unilatéralité, je veux dire.
Tu penses que même un bureaucrate socialiste.
Il faut garder l'espoir que même un petit bureaucrate socialiste, un jour, puisse prendre conscience que le plaisir ne vient pas forcément du fond de son bureau.
Ouais. Tu penses à DSK?
Attends, là, on aurait pu dire emmerdé, là. Dessous son bureau.
T'es emmerdé là. Hein. Parce qu'ils ne se privent pas. Hein.
Ouais. Non, mais tant mieux.
Bon, je pense que Chrysostome Gourou va être interdit d'antenne très prochainement.
Là, de toute façon, je pense que oui, on peut s'attendre à un certain nombre de récriminations de la part, de la part des bureaux politiques divers. Hein, parce que là, effectivement, bon, c'est quand même une apologie des plaisirs en général, hein, cette dernière petite nouvelle. Là,
tout à fait.
Hein, on peut le dire. Tout à fait. Hein, donc ça va pas durer, cette histoire. Hein. Faut que t'en sois conscient quand même.
Non, mais on aura Michel Onfray comme allié.
Oui, c'est vrai.
Et Bernard-Henri Lévy, grand botulien devant l'Éternel.
Bon, alors on rappelle, on va peut-être finir sur ça, parce que je pense qu'effectivement ce rapprochement de Bernard-Henri Lévy et Botul, il s'impose un peu.
Et de Michel Onfray.
Là, on a vraiment une
belle brochette.
Une trilogie là, pour cette dernière émission de l'année.
Il me semble que c'est là la turgescence de la pensée contemporaine.
On y est là. Donc alors, on rappelle pour nos auditeurs, hein, donc, que ce soir, donc, on a quand même accueilli, il faut quand même qu'ils le sachent, Chrysostome Gourou, qui est donc l'auteur de cinq, il y en a un qui est introuvable. Hein, tu nous as dit le premier.
Ouais, tout à fait.
Difficile à trouver. Oui. Donc on rappelle les titres de ses œuvres quand même. Donc le premier est Flikozov, ça a commencé en fanfare, hein, voilà, un polar qui se passe à Tours avec tout un tas de philosophes qui sont désingués dans des conditions absolument épouvantables. Le deuxième, donc dans la série du Poulpe, hein, le Dolmen des Dieux, ça se passe en Bretagne, hein, on n'en dit pas plus. Le troisième, le Crépuscule des Guignols, on vous en a lu quelques extraits. Et puis cette dernière nouvelle qui est peut-être la clé, hein, permettant d'entrer dans ton œuvre, une fellation quasi nulle chez ce petit éditeur inuit, hein, petit mais
costaud,
mais riche de talent. Toutes les références sont en ligne sur le site de l'émission, donc jeudinoir.gurdugu.org. L'émission elle-même est podcastable, comme on dit maintenant. Donc
elle sera très prochainement.
Elle le sera prochainement. On vous salue bien. Et puis, on vous donne rendez-vous pour...
passer un bel été. On se retrouve en septembre.
Voilà.
Et voilà.
Et dernier morceau pour finir.
Change. si maintenant, amuse-nous, un mulâtre, un albinos, un moustique, un libido, oui. Et contagieux, nous voici maintenant.